Oh My God, l'émission décomplexée sur les séries, présentée par Éric Maillard et sa bande sur Beta Série, la radio.
Bonjour et bienvenue dans Oh My God, épisode 5. Ici, on continue à assumer nos choix, qu'ils soient ou pas dans la tendance. Et on n'oublie pas que les séries, c'est avant tout une histoire de kiff. Si on fait un tour de nos petits camarades, si vous deviez dire, je crois que vous l'avez tous vu, si vous deviez dire ce que vous avez préféré d'en valider, ce serait quoi ?
J'ai adoré la réalisation où on passe d'une réalisation assez, typique, genre champ contre champ, plan large, avec pouf, dans leur téléphone, comment ils filment en même temps les réseaux sociaux, etc. Je trouve que l'importance des réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux est hyper bien rendue. Et surtout, c'est quand même des gens qui ont réussi à m'intéresser à un milieu, le rap, auquel je ne connais rien. C'est-à-dire, je regardais avec mon fils, il me disait, lui, il est connu. Je connaissais personne. Il y a un monde parallèle dans lequel les gens sont des stars, pas du tout dans mon monde. Donc, ça m'a permis d'être un peu moins idiote et de les découvrir. Et alors que je suis pas du tout branchée rap, j'ai quand même été embarquée par l'histoire. Et je dois dire que la dernière minute du dernier épisode m'a choquée. J'étais comme ça. Ah, et oui. Ça, c'est assez rare. Franchement, le dernier épisode, il est chaud. Et donc, j'ai trouvé ça hyper... hyper intéressant. Je trouvais toute cette jeunesse magnifique. Ça m'a tenu pendant les 5 heures donc font au total la série. Je l'ai binge-watché, comme on dit, et je ne pensais pas me taper 5 heures sur le rap comme ça. Voilà.
Selim,
écoute, valider ce que j'ai préféré, ça va être le fait de voir les. C'est un peu comme on pouvait les voir dans 10%. Si tu veux, pour moi, c'est un mix de 10%, un peu The Wire pour le côté cam et go fast complètement teubé. Et entourage, j'en parle un peu plus tard, évidemment. Non, ce que j'ai préféré, c'est DJ Snow, qui était pour moi le personnage le mieux écrit, le plus ambivalent, le plus au milieu de tout ça, qui se mouille pas, qui est à gauche, à droite. Ce que j'ai vraiment aimé, tu sais, voir Combini, voir pas Trésor du rap, mais Bouscapé, tu vois, tout ce qui fait vivre ce milieu-là, parce que j'ai 2-3 potes qui bossent dans ce milieu-là, et du coup, tu te dis, ouais, c'est comme ça que ça marche, et ça peut donner un aperçu des coulisses. Donc, j'ai vraiment bien aimé cet aspect-là.
Fabrice ?
Moi, écoute, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai eu peur d'abord de pas du tout être dans la cible, de rien comprendre. C'est un peu comme ce que tu disais, Virginie. En fait, c'est suffisamment bien écrit pour que ça t'amène jusqu'au bout. Mais moi, le truc génial que j'ai trouvé super, et d'habitude, je vois ça que dans des séries américaines, c'est le cliffhanger, quoi. Il y a un vrai cliffhanger, il se passe un truc de dingue. Et moi, c'est très rare dans une série française de nous en mettre plein la gueule en 2 minutes. Non, pas 2 minutes, en 1 minute.
Tu parles de la fin ?
Oui. Ouais.
Ah, alors ça va être compliqué parce qu'il ne faut surtout pas spoiler,
non.
Évidemment.
Non, non, bien sûr.
Mais
bien
pour
sûr,
moi, ce n'est pas un cliffhanger.
Non, mais vous avouerez quand même que la réale de la fin, cette dernière minute, franchement, moi, elle m'a scotché.
Moi, le truc bien, c'est que j'avais été spoilé, parce que j'ai lu un article qui me spoilait. Voilà, donc je ne dis rien du coup. Et malgré ça, la façon dont ça a été filmé a fait que ça m'a scotché. C'est super intelligent. La dernière minute est dingue. Émilie ?
Bah, moi, au-delà de Sabrina Ouazani, qui est ma pote, que j'adore et qui d'ailleurs va écouter cette année, elle me l'a promis, ce que j'aime, c'est le côté un peu inattendu. Effectivement, vous l'avez tous un peu dit, à savoir, normalement, une série sur le rap, nous, ça nous intéresse. Enfin, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Les seules notions que j'ai de rap, c'est NTM et IAM. Donc, autant vous dire que c'est les années 90 et basta. J'aime bien le côté coulisses aussi, mais surtout, j'aime bien le fait que ce soit une série française faite par des petits jeunes et qu'elle soit d'une telle qualité que, voilà, c'est presque du Netflix, une série américaine Netflix, tellement c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est bien produit, c'est bien réalisé. Donc ça fait plaisir parce que Cocorico.
C'est mieux, madame, c'est français.
Merci pour cette petite virgule, Virginie. On continue avec Fabrice. Tu t'approches de ton ordinateur, Fabrice, qu'on t'entende bien.
Est-ce que tu m'entends bien là ? Est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce qu'il faut vraiment que j'ameute mes voisins pour que vous m'entendiez ? D'accord. Okay,
je t'en sens pas. Qu'est-ce que tu dis ? Ouais, vas-y.
Moi, j'ai regardé I'm Not Okay With This, qui est diffusé sur Netflix. C'est une série en 7 épisodes, ce qui est bien déjà. Moi, je trouve 7 épisodes, c'est assez étonnant. C'est une série américaine, c'est tiré d'une BD. Et l'histoire, c'est l'histoire d'une gamine, c'est une adolescente, elle est, on imagine donc au lycée, et elle va se découvrir des pouvoirs surnaturels. Et ce que j'ai adoré dans cette série, c'est pas tant ces pouvoirs surnaturels que la peinture qui est faite de l'adolescence et du passage à l'âge adulte. Vous savez, tous ces adolescents un peu complexés qu'on est quand on est au collège, au lycée, qu'on est en train de se transformer, qu'on se dit « je suis pas comme mon voisin, je suis différent ». Et du coup, j'ai trouvé que cette peinture des adolescents, elle était très intéressante, bien au-delà de l'histoire de ses pouvoirs surnaturels, qui s'exprime d'ailleurs quand elle est en colère, quand elle est frustrée, un peu comme quand on est un adulte. Donc, j'ai trouvé que la série était très bien écrite. Les personnages sont super. On n'est pas trop dans le cliché. Il y en a un petit peu, mais même, il n'y a pas que de la bimbo. Il n'y a pas la bimbo du lycée. Elle, c'est un peu une intello, l'héroïne. Elle est géniale. Et son meilleur pote est super aussi. Je trouve que mettre en avant des personnages qui sont un peu intello, qui sont pas trop cons, qui écoutent du Roxy Music et du Prisap Sprout chez eux, j'ai bien aimé ça. D'ailleurs, c'est deux acteurs plutôt jeunes, bien sûr, qu'on avait vu dans le film Ça. Et bah, je les ai trouvés aussi déments. Voilà, c'est pas ma cam a priori. Si je voulais faire une comparaison, je dirais que ça parle mieux de l'adolescence qu'une série qui s'appelle Sex Education.
Arrête
et donc c'est pour ça que j'ai adoré cette série, même si, attention, je préviens, dans le dernier épisode, si vous n'aimez pas le gore, il y a quand même un truc de dingue qui se passe à la toute fin, qui est assez gore, il faut dire ce qui est, mais en tout cas qui relance en tout cas la série et qui relance sur une suite. On se demande bien ce qui va pouvoir arriver après. En tout cas, voilà. Moi, si je vous la conseille, c'est 7 épisodes assez courts, donc c'est très agréable à regarder. Et si vous n'avez rien à faire en ce moment, bah, allez-y, foncez, quoi.
Moi, le truc qui m'a donné le plus envie, c'est de savoir qu'il y a un truc gore à la fin, du coup, vous allez le voir. Je pense que je suis capable de me taper les 7 épisodes qui, de toute évidence, ne sont pas faits pour moi, d'après ce que j'en entends, juste pour voir le truc gore.
Ouais, tu vas pas être déçu.
Non, j'ai pas vu, mais je vois que Fabrice profite du fait qu'on soit pas côte à côte pour dire des méchancetés, parce qu'il sait que je peux pas le frapper. Mais je ne retiens, je le note, et tu auras le droit à ta petite tape à la prochaine fois, on se verra.
Moi, j'ai hâte.
Donc, c'est sur Netflix, hein, Fabrice, on est d'accord.
Oui, c'est sur Netflix.
Cool. Célim ?
Un peu de Netflix et un peu d'Amazon Prime sur Netflix. Je me suis dit, bon, confinement, écoute, on va regarder The Circle, des gens enfermés, de la télé d'enfermement comme on savait le faire en 2001. Ça a été un peu... moi, j'ai pu regarder de Loft, ni de rien du tout, ni de Secret Story après 2008. J'ai plus rien regardé. Donc, du coup, ça faisait un certain temps. Et là, j'ai remis le nez dedans et The Circle, je trouvais que le format était ultra intéressant. L'idée, c'est que tu mets 8 personnes dans un seul immeuble, 8 pièces différentes. Ils ne communiquent pas ensemble, ils ont chacun leur appart. Et tous les jours, vu qu'on vit à l'ère des réseaux sociaux et des téléphones portables, tous les jours, ils vont voter, ils vont chatter. Ils ont l'équivalent de la voix qui transmet des messages, mais tout se fait par chat. Tous les soirs, il y a un vote. Tous les soirs, on voit qui est le plus populaire. Et à la fin, bah, le plus populaire, il vote entre eux pour dire qui est le plus populaire. Le plus populaire, il va gagner, je sais pas, 50 000 dollars ou 100 000 dollars. Et donc, ça se joue vraiment sur des impressions en ligne. Et je trouve que c'était vraiment quelque chose d'actualité. Tu vois, on est tous confinés. Comment on fait pour raconter notre histoire? Comment on fait pour continuer d'exister? Comment on fait pour se préparer pour les retrouvailles avec tout le monde? Il y a un côté un peu malsain, peut-être flippant d'être tout seul chez soi. Bon, la série, elle va trop vite. Donc, ils ont, comme nous, vraiment confinés et de péter un câble et d'être triste, hein, ou de se demander ce qui va se passer après. Ils savent que c'est un jeu. Mais j'ai beaucoup aimé la mécanique, en fait, de, bah, d'élimination et de popularité. Tu vois, on en avait déjà un peu parlé la dernière fois. Toi, je sais, Eric, que ça te fait peur avec le côté catfishing, le côté fraude sur Internet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect psychologique de, bon, je sais qui je suis, je sais quelle est ma sexualité. Est-ce que pour être le plus populaire, je suis moi-même ou est-ce que je vais m'inventer un personnage? Et ce que j'ai aimé, c'est de voir qui gagne à la fin, le plus mytho ou le plus réaliste.
Ce que j'ai pas eu le temps de dire la dernière fois, c'est qu'effectivement, ce qui m'embête un peu, c'est le côté catfishing. Le deuxième aspect qui m'étonne plus qu'il m'embête, c'est qu'on est mais plongé dans une espèce de culture américaine à la sauce religion où Dieu est présent toutes les 5 minutes dans les conversations. C'est quand même totalement flippant. Alors, on peut le regarder comme un outil sociologique, enfin, comme une espèce d'œuvre sociologique qui nous plonge dans l'Amérique profonde. Mais quand même, du coup, rentrer dans la connivence de la mécanique avec ces gens qui sont terrifiants. Ils sont absolument terrifiants, au-delà de leur volonté de se dissimuler derrière des personnages ou pas. Leurs références, ceux qui se dissimulent pas, font encore plus peur que ceux qui se dissimulent. Donc, je suis très étonné de l'engouement. T'as raison, hein, parce que c'est un engouement très général. Moi, ça m'a choqué toutes les 5 minutes.
Et moi, ce que je trouve étonnant, c'est que visiblement, la version française est sortie déjà. Ah bon? Et en fait, ouais, bah voilà, c'est la réaction que j'attendais parce que Netflix n'a pas communiqué dessus du tout. Et visiblement, c'est en ligne. C'est donc, un titre. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil.
Bah, c'est la même chose. Bah, c'est la même chose, mais en français.
The Circle France, il y a aussi la version Brésil. Je n'ai pas regardé encore cette version Brésil parce que je me suis dit que ça n'allait pas changer grand-chose. Mais ouais, la version française, moi, ce qui m'intéresse, tu sais, c'est toujours le casting. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ok, il y a le noir très sportif, beau gosse, il y a le petit blanc de Jersey Shore, il y a le petit indien américain hyper geek, il y a la, comment tu dis, Butch, qui s'assume en tant que tel, genre avec
tu des rainbows partout.
Ouais, voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils vont transposer ça sur le modèle français, tu vois. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans les émissions. Quels sont les stéréotypes? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant pour la version française?
Ok, on va découvrir la version française et on verra ce qu'ils en ont fait. Je prends quelques minutes pour parler de mon coup de cœur à moi, parce que là, cette fois-ci, j'y tiens vraiment.
Ouais.
Parce que c'est un vrai putain de coup de cœur, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un comme ça. Ça s'appelle Tales from the Loop, c'est sur Prime Video. Alors, dès la première image, la première seconde de Tales from the Loop, on voit une espèce de, à travers l'image, le rythme, la musique, on voit une proximité avec ma série préférée tous les temps qui s'appelle The Leftover. Donc on comprend qu'on sera sur un rythme lent, on comprend que les images seront très stylisées, recherchées et la musique est assez proche. En gros, le pitch, c'est un village quelque part aux États-Unis, quelque part entre les années 60 et 80, on ne sait pas très bien. Et en dessous de ce village s'est installé une espèce de laboratoire scientifique souterrain mystérieux qui s'appelle The Loop, la boucle en anglais. Comme dans The Leftover, où un pourcentage de la population disparaissait, ça n'avait pas une importance si grande que ça, on se fichait un peu de ce qu'il y avait derrière. Finalement, l'installation scientifique en elle-même, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse, c'est les phénomènes surnaturels qu'elle provoque et surtout les questions métaphysiques qui vont avec. Parce que je peux pas les révéler parce que ça spoil trop la série de raconter une par une les grandes questions qui vont être traitées dans cette série, mais elles résonnent pour tout le monde.
C'est qui suis-je, où vais-je, tout ça, non? Les grandes questions.
Non, plus compliqué que ça. Moi, ça m'a permis de me projeter dans une petite fille, dans un homme black, dans une maman, et de vivre ces émotions-là à travers elle et à travers mon propre vécu à moi. Et je sais que pour en avoir parlé avec d'autres, qui sont très éloignés de moi et qui ont vu la série, ils ont exactement eu cette même mise en résonance. C'est très étonnant. Je pense que ça marche pour tout le monde à travers nos propres expériences. La construction est super intelligente. Ça veut dire qu'il y a une intrigue de fond sur l'ensemble des épisodes, mais chaque épisode est une boucle, si je peux dire, en lui-même. Chaque épisode fait un focus sur un personnage qui développe un storytelling très fort, très rapidement, et qui se boucle à la fin. C'est un peu complexe parfois, mais pas à la Westworld ou Dark, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, on comprend, toutes les pièces de puzzle sont rapidement là pour qu'on comprenne. Ça me donne donc l'impression d'être plutôt intelligent à la fin. Et ça parle aussi à mon émotion, aussi et avant tout. C'est inspiré de tableaux numériques d'un artiste chinois, suédois, pardon, pas chinois. Ça, c'est une première. Le mec qui a fait ça, il est scénariste, créateur, showrunner, producteur. Il s'appelle Nathaniel Alpern. Il a participé à Légion et The Killing US également. C'est un petit bijou. Ça oblige à poser son téléphone, à faire rien d'autre, même si on est une fille et qu'on est capable de faire 15 trucs à la fois, et à rentrer dans la magie de cette série. Si on a détesté The Leftover, il y a peu de chances qu'on aime, pour être franc.
Ah, bon, je vais pas aimer.
Voilà, parce qu'il y a cette lenteur, cette mise en place de grandes questions métaphysiques avec lesquelles il faut créer cette résonance. Si ça ne prend pas dans le premier épisode, faut pas insister. Et sinon, si vous rentrez dans cette magie-là, vous avez de la chance. J'aimerais bien être à votre place parce que vous allez vivre une première expérience super forte.
Il y a combien d'épisodes?
8. Je pense que je dis pas de bêtises. Ouais, il y a 8 épisodes. Encore une fois, ça nécessite de se poser, donc faut vraiment les déguster en tant que tel. Moi, j'ai pas binge-watché, je les ai un peu dégustés dans le temps, enfin en 3 jours quand même. mais voilà, j'avais très envie de continuer. Non, j'ai pris un peu le temps d'en profiter. Oui, Mimi.
Alors, j'ai un petit souci technique. On a dit qu'on se disait tout, émission de confinement. J'ai quasiment plus de batterie, donc il va falloir que je mette mon casque. Donc j'espère que vous allez pouvoir m'entendre, parce que sinon, ça va couper dans à peu près 2 minutes 30.
D'accord.
Voilà. Ok. Voilà. Bon, on va essayer. Hein.
À tout de suite.
À tout de suite.
Oh my God, les chroniques.
Oui, on t'entend, Émilie, et on s'intéresse d'abord aux audiences dans les chroniques qui sont toujours basées sur la consommation sur les plateformes de streaming des 1 300 000 membres de Beta Série. Et voici le top 15 que vous attendez tous avec impatience. Ouais. On le voit à l'image, on ne l'entend pas, mais on le voit à l'image. Alors, j'ai plein de surprises dans ce top 15, des bonnes, des étonnements, enfin, plein de choses. La 15e position est une surprise. Validé n'arrive qu'en 15e position. Je pensais que ça serait beaucoup plus haut.
Mais attends, il va monter petit à petit.
Bah alors on est
15 millions pour commencer, 350 millions pour finir.
On est déjà sur
grâce à nous.
C'est vraiment le classement du moment, donc on est vraiment sur la troisième semaine. Donc peut-être que la consommation était très 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 forte avant et que là c'est retombé, mais c'est en 15e position. En 14e, on retrouve toujours Star Trek Picard sur Amazon.
Avec Chloé.
Avec Chloé, qui est donc retombé depuis la dernière fois, mais qui est toujours là.
Et une surprise.
En 13e position, la Fabrice, c'est notre moment. Hein. Accroche-toi, tu vas voir. En 13e position,
Dynastie.
Les gens ont enfin compris qu'il y avait un et un seul truc à regarder en confinement pour s'en sortir.
C'est les gens se font chier, ils regardent Dynastie, tu vois, c'est ça le truc.
Ouais.
Les gens sont
bourrés. C'est la vieille
surtout.
Version ou la nouvelle version de Dynastie?
Non, la nouvelle, la version la 2017. Nouvelle.
Je suis un peu déçu.
Enfin, non, ouais. Non, non, elle est vraiment bien. D'ailleurs, la dernière saison n'est toujours pas sur Netflix. Si vous m'écoutez, Netflix, faites quelque chose. Bougez-vous les fesses. 12e position, Loki. Netflix également.
Mm-hmm.
En 11e position, une série que j'ai très envie de voir, mais je n'ai pas encore vue, vous allez me dire, Freud sur Netflix.
Alors la moi, j'ai commencé et j'ai arrêté. C'est-à-dire que je pensais que c'était un truc un peu historique et pourquoi pas Freud.
C'est comme ça qu'on me l'a
après
vendu.
Tout. Et en fait, pas du tout, il fait des enquêtes, il boucle des trucs, enfin, c'est... Voilà. Et alors moi, ça, c'est un truc que je peux pas. Moi, tu me mets Freud ailleurs que dans son cabinet de psychanalyse, à Vienne ou à Londres, traiter ses patientes et un peu flirter avec, voire plus, en tapant de la coke, je suis perdue. Oui, parce que Freud tapait de la coke, hein, faut quand même le dire, il a fait plein d'écrits pour... D'ailleurs, on peut quand même penser à l'œuvre de Freud sous ce prisme-là, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Mais bon, il a fait plein d'écrits hein, pour dire c'est super la cocaïne, allez-y. Donc voilà, mais là en plus c'est pas vraiment Freud, c'est Freud qui fait des enquêtes. Moi j'étais perdue intellectuellement, c'est pas du tout pour moi, j'ai paniqué même.
Bah écoute, ouais, je comprends. D'après ce que tu dis, alors ça, le pitch, une série historique qui réinvente la jeunesse de Sigmund Freud, moi ça me vendait du rêve. Mmh. La façon dont tu viens d'en parler, ça vient de tuer le truc instantanément. C'est sur Netflix, c'est en 11e position. Bon.
Moi c'est l'inverse, ça m'a donné envie.
Ah, cool. Bon,
bah, façon Sherlock, quoi.
Ouais, j'imagine que c'est façon Sherlock. Ouais, mais Freud, on... Enfin bon.
Prends Sherlock, c'est les experts, ça.
On va juger sur pièce. En 10e position, une série dont je dirais peut-être deux mots tout à l'heure, parce que c'est un autre coup de cœur, c'est Unorthodox sur Netflix.
Mmh. Alors ça, c'est dans ma to-do list.
Moi aussi.
Eh ben, je vais essayer de vous convaincre tout à l'heure en 3 secondes, parce que j'aurai pas beaucoup plus de temps, mais voilà, il faut y aller. Altered Carbon sur Netflix, c'est 9e. Dermy sur Netflix est 8e. Alors moi, je n'avais pas trop entendu parler, mais là, le pitch, pour le coup, instantanément, me donne envie de regarder ailleurs, parce que les séries pour ados, personnellement, j'en peux plus. Et ça croise en plus le cheerleading, et j'en peux plus non plus. Et là, je suis dans vraiment une période où il ne faut plus me présenter un seul ado sur un écran, parce que j'ai envie de le buter instantanément. Mais
c'est bizarre.
Pour ceux qui auraient encore cette envie-là, c'est 8e position, visiblement. Vous avez regardé, Dermy?
C'est dans ma to-do list aussi. Mais le problème, c'est que là, je suis en train de me mettre à jour de How to Get Away with Murder. Parce que Annalise Keating et Viola Davis, passion totale. Donc, en fait, j'ai pas vu énormément pour être sincère. Mis à part valider, bien sûr.
D'accord. Ouais. En 7e position, Sex Education, Netflix, on passe vite. En 6e position, Good Girl, Netflix, et ça arrive sur M6. En 5e position, Good Doctor, qui est sur Amazon, quand c'est pas sur TF1. En 4e position, une série qui est là depuis longtemps, et vous allez me dire si vous avez fini, enfin si vous les regardez. Moi, j'arrive pas à m'y mettre alors qu'elle doit être bien, c'est Ozark. C'est la 3e saison de Ozark, qui sont en 4e position des consommations depuis longtemps, alors qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve, et visiblement, c'est de mieux en mieux chaque saison, mais c'est un espèce de truc fantomatique, ça crante pas. Qui l'a vu, Ozark?
C'est hyper mal vendu. Enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est hyper mal vendu. Quand je vois l'image sur Netflix, ça ne me donne pas du tout envie. Cette espèce de gros truc-là, non. Et je pense que c'est ça, parce que visiblement, tous ceux qui l'ont vu l'ont trouvé vachement bien. Ouais. Mais je n'arrive pas à avoir envie de me poser devant cette série.
Ouais. Moi, c'est le casting qui me donne super envie. Mais c'est vrai que je ne me suis toujours pas lancé. Ça fait 3 ans que c'est dans ma to-do list.
Moi aussi.
D'accord. Bon, ben, je crois qu'il va falloir qu'on se lance, parce que là, tout le monde regarde, sauf nous. Donc, ouais. Ça devient un problème sur notre street cred, quoi. En troisième position, faisant référence à ce que je disais tout à l'heure sur les ados, Elite.
Ah, Elite, qui est quand même... Ma mère m'a appelé en FaceTime et m'a dit, on était en FaceTime avec elle et une de ses potes, et ma mère a 61 ans. Et a dit à sa pote, mais regarde Elite, c'est génial, il y a du cul dans tous les sens, des mecs avec des mecs, des meufs avec des meufs, des mecs avec des meufs, c'est génial. Donc ça m'a un peu choqué et ça m'a fait beaucoup rire surtout.
En fait, on est arrivé dans ce moment où mettre du cul, qui est un peu comme ça, choquant, et devient le label d'une bonne série, même si l'histoire est pourrie, même si c'est joué avec les pieds par des gens agréables à regarder, hein, c'est clair, mais joué avec les pieds. Et tout à coup, ça en fait une série phénomène, je trouve ça dingue. Mais encore une fois, je prends ma casquette vieux con. Et
attends, on va regarder là.
J'accepte. On va regarder. Tu n'as pas regardé, Virginie ?
Elite ?
Ouais.
Non.
Je
me suis déjà pour vous faire plaisir, là, j'avais regardé les autres, là, déjà des ados sous les néons, là. Comment ça s'appelait ça ? Avec la fumée.
Ah, mais non, mais Euphoria, tu peux pas. Tu peux pas comparer.
Mais Virginie, qu'est-ce que t'as avec Euphoria, bordel ? Ouais. Ben, non, mais c'est juste que bon, bah, c'est les ados, c'est dur d'être ado. Mais enfin, si tu veux, c'est à chaque fois qu'on nous fait une série où on nous dit que c'est dur d'être ado, on crie à la révolution parce que aujourd'hui, comme au XVIe siècle, c'est dur d'être ado. Bon, tu vois, ça va quoi, faut se renouveler.
Allez, on passe Westworld en deuxième position. Moi, j'ai lâché la saison 2 qui m'a perdu. Il paraît que la saison 3 est bien de nouveau, mais bon.
Moi, j'ai même pas réussi à finir la saison 1.
Ah, moi aussi.
Ah, c'est dur ça. Moi, j'ai tu es bon aimé. Public quand même.
J'ai beaucoup aimé la saison 1, mais bon. Première position, à votre avis, vous diriez quoi ?
Casa ?
Ben ouais.
Casa.
Alors, avec quand même une espèce de. C'est drôle parce que tous les retours que j'ai vus sur tous les gens qui sont jetés dessus pour le binge-watcher disent quand même c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est de la merde, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait à regarder cette merde ?
Je peux
mais
avouer
tout le monde
chose.
Le regarde quand même, c'est étonnant.
Moi, j'ai lâché la Casa del Papel. Saison 1, épisode 2, parce qu'il y en avait une, son jeu, c'est dans les cheveux, quoi. Elle sait pas jouer, juste elle.
Ah ben elle, c'est l'élément drôle.
Voilà, donc c'est... Si
c'est tu veux, celle quand, qui s'attache quand, les cheveux
quand,
tout le temps, là.
Voilà, quand ta qualité d'interprétation passe par tes cheveux, on peut dire qu'on est au niveau zéro, et donc moi j'ai refermé l'ordi et je suis passée à autre chose.
Mais Casa del Papel est encore plus joué avec les pieds qu'Elite.
Elite, mais non
Mais vous êtes dur.
Vous êtes dur, là.
La commissaire, je n'ai jamais vu quelqu'un jouer aussi mal. Je ne pensais pas qu'il existait d'aussi mauvais acteurs.
Eric, si tu n'aimes pas les Espagnols, n'en découvre pas les autres. Tout de suite.
J'adore les Espagnols. Tu connais mon historique de vie. J'adore les Espagnols.
Ah bon.
Pas là. Allez, on passe au coup de gueule. Plaisir coupable, étonnement en tout genre. C'est la carte blanche d'ailleurs. C'est pas forcément que des coups de gueule. Et ça vous permet de parler de tout ce que vous voulez en une minute chrono. Et maintenant, ben, en fait, Émilie, elle nous a habitués au coup de gueule. Donc je crois qu'on s'attend à son petit coup de gueule mensuel. Vas-y, Émilie, c'est à toi.
Eh ben, je vais pas te décevoir parce que je vais encore gueuler. Je vais encore gueuler après toutes les plateformes qu'il y a en ce moment, à savoir Netflix, Amazon et aussi Canal. Hein. Je suis désolée, c'est mon groupe, il me paye, mais je vais quand même gueuler après vous. Je vous explique pourquoi. Je sais pas si vous connaissez la série Viking. Viking, voilà, bah, comme son nom l'indique, c'est avec des Vikings. De la saison 1 à la saison 5, c'est disponible sur Netflix et Amazon. Déjà, très surprenant que les deux plateformes aient les premières saisons, mais c'est pas grave. Et donc, ma meuf, parce que pour le coup, ça concerne ma meuf, parce qu'elle, elle aime bien les Vikings, étonnamment, alors que j'ai pas une tronche de Viking, a commencé à regarder. Elle s'est enquillée 5 saisons. Donc, elle regarde. Et puis, ensuite, la saison
inédite... Elle compensait son manque de Game of Thrones, je pense.
Je pense que c'est ça, c'est son manque de Game of Thrones. Et pour avoir la saison inédite, elle passe sur Canal. Et là, elle commence à regarder le début de la saison 6 et elle se dit, bah, elle voit le résumé, c'est Previously On. Elle dit, bah, j'ai pas vu ça. « Oh putain, bah, j'ai pas vu ça non plus !» Donc elle se fait spoiler et en fait, elle s'est rendue compte que jusqu'au milieu de la saison 5, les épisodes sont dispo et sur Netflix et sur Amazon. Ensuite, il manque 5 épisodes et après, on commence à l'épisode 1 de la saison 6. C'est-à-dire et ils sont dispo nulle part. C'est-à-dire que ni Amazon, Netflix et Canal, qui ont tous les trois les droits, ne mettent à dispo les 5 épisodes qui sont donc la moitié de la saison 5. Tu ne les trouves nulle part en téléchargement légal. Tu ne peux pas les acheter sur Apple, tu ne peux pas les acheter sur YouTube ou quoi que ce soit. Ils ne sont nulle part. En France, en fait. Il faut les télécharger illégalement. Donc, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Je l'ai déjà dit la dernière fois à propos de The Bold Type. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut attention, qu'il faut payer les plateformes pour qu'on ait du contenu, il ne faut pas télécharger illégalement. Mais les gars, en fait, il y a un moment où vous faites exprès de faire en sorte que nous, pour pouvoir suivre des séries, on soit obligé de les télécharger illégalement. Bon, là, en l'occurrence, on ne l'a pas fait. Elle a eu de la chance quand on est parti en vacances. Le milieu de la saison 5 était dans l'avion. Donc, improbable. Mais elle a réussi à le voir. Mais pour tous les gens qui ne voilà, prennent cher. Pas l'avion, voilà, ça fait un petit cher. Peu cher pour voir 5
En période de confinement, c'est oui, compliqué.
Surtout en ce moment, c'est marrant. Ben,
surtout en ce moment. Donc, en fait, si on veut se faire tous les épisodes de Viking, on ne peut pas. Voilà. Donc, ça m'a saoulé. J'en ai marre. Et je ne sais pas, faites quelque chose. Ou au moins, mettez-les payants.
À qui on peut écrire? Tu connais des gens?
On peut lancer un mouvement au balcon tous les jours à 1h et on fait des
19h55, juste avant les applaudissements.
Il y a moyen de faire quelque chose.
Pour les plateformes. Moi, je pense que c'est
nécessaire. On met des longues perruques blondes avec des longues perruques blondes et des grosses moustaches et on va gueuler sur les balcons.
On fait tous les Vikings. Ça me va, ça me plaît. Et surtout qu'Eric, il a déjà la petite queue, donc tout va bien. Ouais.
On reste sur un coup de gueule avec Selim.
Ouais, alors, mais pas du tout, je suis pas du tout énervé, je n'ai aucun coup de gueule. Je suis très content. Non, tout se passe bien, écoute, on a beaucoup de temps pour regarder plein de séries, pour rattraper plein de séries. Donc, du coup, je n'ai préparé absolument aucun coup de gueule aujourd'hui.
Tu nous parles pas du tout de Vampire sur Netflix, du coup.
Exactement, parce que ça, c'est mon coup de gueule de la semaine.
Il est bourré, les gens sont bourrés, c'est ça le problème de la version confinée.
T'as encore été sur House Party, toi, on le voit.
C'est qu'on est à la maison. Et non, alors je n'ai pas compris, voilà, une série sur les adolescents / vampires. Mes références d'adolescents vampires, c'était Buffy et Twilight. Donc là, j'ai regardé, c'était pas foufou. Les deux premiers épisodes m'ont gonflé, c'était un peu lent. Et c'était filmé de manière très chelou. Là, on reparlait des néons d'Euphoria. Ça m'a gonflé, tu vois. C'est pas parce que tu fais une série sur les vampires que t'es obligé de faire une série que la nuit avec de l'éclairage crado.
Un petit peu quand même, à 6h le jour.
Non, pas du tout, pas du tout. Eux, ce sont des vampires différents, d'accord. C'est différent, c'est des vampires français, donc exception culturelle française. Mais non, donc du coup, j'ai pas accroché, j'ai raccroché au bout de 2 épisodes.
Donc on regarde pas Vampire sur Netflix.
Et c'est marrant parce que là personne ne le juge en lui disant ah donc tu au bout de 2 épisodes t'as décidé si c'est bien ou pas. C'est-à-dire que Fabrice
mais non parce qu'on sait qu'il lâche pour aller lire des gros livres de 800 pages.
Ah oui c'est ça.
Non mais Casa de Papel j'ai arrêté au bout du 3e par exemple. Tu vois Virginie a lâché au bout du 2e, moi au bout du 3e j'avais lâché.
Normalement c'est parce
que moi je me fais toujours rapidement. Une saison entière avant de dire de la merde.
Ah ouais quand même.
Je me suis fait Casa de Papel en entier la saison 1, après j'ai arrêté. Fabrice, tu nous parles d'un truc qui arrive genre fin avril quoi. On est dans du
oui, la production. Qui arrive bientôt sur TF1 mais qui est déjà passé sur Warner TV en France, c'est The Resident. En fait, à la base, je voulais faire un coup de gueule.
The Resident.
The Resident. I mean, yes. Oui. Et donc, au départ, c'était parti pour faire un coup de gueule parce que je me disais, encore une série médicale, on n'en peut plus. Et effectivement, j'ai un peu changé d'avis. D'abord parce qu'il y a Emily Van Camp dedans. Et qu'Emily Van Camp, elle peut faire n'importe quoi. Je l'adore. C'est depuis Revenge.
Elle est odieuse. Eric,
il faut que tu
c'est la Emily Van Camp de Revenge, c'est ça?
Ouais, c'est la.
Elle est méchante, elle est odieuse.
Moi, alors, je vais
être avec toi là-dessus parce que je trouve qu'en au-delà d'être méchante et odieuse, je trouve qu'elle joue pas très bien. Mais
ça suffit. Et alors donc c'est moi qui parle. Et non. Et franchement, j'ai regardé la série. J'ai trouvé ça pas mal pour une série médicale. D'abord, c'est assez marrant parce que ça se passe dans un hôpital privé et du coup, ils montrent aussi tout le business que font les hôpitaux. Donc, je trouvais ça assez marrant. Après, je vous cache pas. ONVPS, on ne va pas se mentir, c'est pas du tout différent, pas très différent des autres séries médicales, mais c'est plutôt bien écrit. Et c'est l'occasion aussi de voir, de revoir Melina Kanagaredes, dont je suis toujours tellement content de savoir dire le nom d'un premier coup, j'adore ça. Melina Kanagaredes, les experts de Manhattan, mais aussi Providence. Hein? Voilà. Et il y a aussi un acteur que j'adore qui s'appelle Bruce Greenwood, qui a été au cinéma beaucoup. Non. Comment?
Côte Ouest.
Oui, oui.
Il a été dans Côte Ouest.
Vous êtes gênant, les mecs.
La saison de 1980, l'avant-dernière saison, mais bon, qui est, c'est bon. Ouais. Et on l'a vu aussi dans Star Trek au cinéma. Ça, je trouve que c'est un acteur formidable. Là, il joue le patron de l'hôpital. C'est une ordure finie. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une bonne vieille ordure comme ça pour TF1 le soir. En tout cas, si qui est Grey's Anatomy doit vous manquer, comme pour ça sera le cas pour Emily. Bah, allez, regardez The Resident, vous allez voir. Au début, le service hospitalier en prend plein la gueule. Je sais pas si c'est la bonne programmation pendant le confinement, mais en tout cas, c'est quand même plutôt bien foutu, bien écrit. Ça se regarde en faisant plein d'autres trucs en même temps. Virginie, c'est pour toi, tu peux le regarder.
Et donc, ça prend la suite de Grey's Anatomy le 22 avril, c'est ça?
Le 22 oui, avril, ça démarre sur TF1. Parce que
c'est Grey's mon Anatomy anniversaire le 22.
Eh ben c'est super, c'est mon cadeau. Tiens, tu peux regarder The Resident.
Et c'est, en fait, c'est pour, qu'on explique pourquoi, c'est que TF1 en fait n'a plus assez d'épisodes doublés de Grey's Anatomy, exactement. Donc c'est obligé d'arrêter. Ce qui m'a rendu hystéro, parce que je suis désolée, mais une série, tu peux la regarder en VO sous-titrée. Non, mais c'est vrai. Enfin, faut qu'on arrête d'être des assistés, merde. Enfin, tout le monde parle un petit peu anglais.
Non,
et je
pas
pense
du tout.
Que
Grey's Anatomy.
Mais il y a les sous-titres, les gars.
Non.
Non. Il y a surtout les téléspectateurs qui regardent Grey's Anatomy, je pense qu'ils aiment bien, ils ont l'habitude. Ça fait 16 ans qu'ils le regardent en français.
Ouais, moi je regarde en français, hein, Grey's Anatomy.
Eh bien, faut les déshabituer. En Allemagne, par exemple, toutes les séries, elles sont en sous-titrées. Hein. Et c'est pour ça qu'ils parlent aussi bien anglais.
La francophonie, défendre la langue française. On est une exception dans le monde, on ne va pas se...
Comment on fait pour couper le micro de Selim?
Ah, tu peux pas. Parle un peu...
Ah non, je ne peux pas couper
doublages,
le micro,
là.
Malheureusement.
Non, mais sur le doublage, tu ne peux pas. On est vraiment une nation puissante là-dessus, donc il va falloir patienter. Je suis allé m'enfermer l'autre jour à Valence, dans la Drôme. Je cherchais un film en VO. Il y avait une séance par semaine. J'avais envie de me buter, parce que moi aussi, je regarde tout en anglais, mais tu peux pas demander à mon père de 60 balais de regarder les trucs en anglais sous-titrés. On n'est pas la Norvège, on n'est pas la Suède, donc acceptons ça.
Tu me déçois. Bon, alors du coup, moi qui élève des êtres humains, je vous invite à les mettre très tôt aux sous-titres.
Ouais, ça c'est sûr.
Voilà. Enfin, j'élève, je fais ce que je peux, mais en tout cas sur les sous-titres, j'essaye de leur apprendre à lire en même temps qu'ils regardent une image.
Continue Virginie sur ta carte blanche.
Alors moi, la carte blanche, elle est sur Netflix, ça s'appelle Tiger King, très mauvaise traduction française, au royaume des fauves. Sortant
ah oui,
nulle part.
Oui,
c'est une mini-série documentaire de 7 épisodes et on suit le dessin de Joe Exotic, aka Tiger King, et puis de ses relations avec d'autres gens qui, eux aussi, ont des parcs avec des félins à l'intérieur, globalement des zoos à tigres. Quoi. Et donc, déjà, extraordinaire, on rentre dans un univers parallèle de gens qui possèdent des tigres. Et là, je n'avais jamais fait d'études sociologiques sur les gens qui possèdent des tigres, mais on se rend compte qu'ils sont tous tarés. Ils ont quand même tous un gros, gros pet au casque. Pas tous au même endroit, c'est pour ça que c'est divertissant, mais ils ont quand même globalement tous en commun d'avoir un putain de pet au casque. Et donc, bon, alors, il y en a plein, donc chacun a sa philosophie avec son parc, hein, mais il y en a une qui est terrible, et Joe Exotic est en guerre contre elle. Elle s'appelle Carol Baskin. Donc, elle arrive, elle a l'air très sympathique, américaine, un peu folle, hein, tout le temps habillée en tigre, avec ses tigres. Donc, elle te dit qu'elle les sauve. Donc, tu dis, bon, a priori, t'es quand même plus dans son équipe que dans l'équipe de l'autre Joe Exotic, qui est un white trash décoloré, mais qui a le bon ton de ne pas être tout à fait cliché. C'est-à-dire qu'il est gay et il tombe amoureux que de mecs sans dents accro à la mettre, qui ont 19 ans, c'est assez étonnant. Ah ouais. Très musclé, sans dents et accro à la mettre. C'est ce qu'il aime bien. Voilà. Donc c'est un marché de niche aussi. Donc il en trouve hein, quand même, parce qu'il est au fin fond des États-Unis avec ses tigres, etc. Il veut faire de la télé-réalité, il veut être une star. Dans sa tête d'ailleurs et dans son zoo, il est la star qu'il a envie d'être. Et il est en guerre ouverte donc, contre cette Carol Baskin, qui au départ, on se dit, elle est assez sympathique, on est plutôt de son côté, parce qu'elle vient sauver les tigres. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'elle est pire que les autres, elle est esclavagiste, et qu'elle a probablement filé son putain de mari à bouffer aux tigres, figurez-vous. Il y a quand même une séquence extraordinaire où elle dit, alors non, je ne pense pas que les tigres mangeraient un être humain qui aurait juste une odeur de sardine sur lui. En revanche, si vous mettez les chaussures dans l'huile de sardine, là, il est foutu. Et là, t'es dans ton écran, tu te dis, mon Dieu, elle est en train de me raconter comment elle a buté son mec, quoi. Et donc, on est dans un monde complètement parallèle avec des fous furieux qui sont assez géniaux parce qu'ils sont quand même dans leur trip, quoi. Donc, sur le marché parallèle, des gens qui reproduisent les animaux sauvages, qui les enferment, qui essayent de te faire croire que c'est des gros chats, alors que pas du tout. Hein. Je persiste et signe, un tigre n'est pas un chat d'appartement. Non, 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 ça ne s'adapte pas. Et d'ailleurs, régulièrement, ils sont quand même croqués. C'est-à-dire que les mecs, ils sont tous là à te dire, le tigre est trop heureux avec moi. Puis quand même, dès que le mec a le dos tourné, le tigre, il essaye. Il tente sa chance, quoi. Voilà, donc c'est un univers complètement parallèle. Ça explose. Tout le monde l'a vu, tout le monde en parle. Donc, si vous allez sur tous les sites, TMZ, Eric Maillard peut confirmer, est ma source d'information principale dans ce monde. Et dans TMZ, on n'arrête plus de parler de Joe Exotic. Sachez qu'en ce moment, il est en prison, en quarantaine, parce qu'à cause du Covid, mais qu'il a très hâte de sortir de la quarantaine pour profiter de tous les gens musclés sans dents qu'il va pouvoir rencontrer grâce à sa nouvelle notoriété. Donc, on est chez les dingues et quand même,
ça fait du bien en période de confinement où l'ambiance est assez anxiogène. Moi, j'ai adoré parce qu'on rentre dans un univers parallèle chez des gens fous, mais qu'on a envie de suivre, qu'on n'en vit pas du tout. Il n'y a rien dans leur vie qui peut donner envie. Mais en même temps, si on ne vous les montre pas, jamais vous ne pouvez soupçonner que ce genre de, ce type, cette typologie d'être humain existe sur cette planète. Voilà. Alors,
je tiens à dire quand même que Virginie a parlé, voulait parler de cette série-là bien avant que ça devienne une espèce de phénomène dont tout le monde parle, puisqu'en effet, depuis une dizaine de jours, c'est partout. Oui. Mais Virginie l'avait repéré sans doute grâce à TMZ beaucoup plus tôt, et sans doute grâce à TMZ, elle me tient au courant sur l'état de la dentition de chacun des protagonistes.
Oui, très bonne nouvelle. Le premier mari a récupéré des dents. Le premier mari de Joe Exotic est maintenant hétérosexuel avec des dents.
Voilà, ça change quand même le personnage.
Comme quoi.
Et en fait, dans ce que Virginie a dit, il n'y a pas tant de spoilers que ça, parce qu'il y a des choses qu'on sait dès le début sur la prison, notamment, qui attend notre ami Joe Exotic. Qui d'autre l'a vu?
Il n'y a pas de spoilers du tout.
Si, un peu, mais pas sur la prison.
Moi, j'ai pas tout vu, mais j'ai trouvé le personnage est effectivement très étonnant, mais il est quand même un peu glauque quand même. Hein. Moi, il m'est assez mal à l'aise quand même. Il y a un truc assez gênant dans ce personnage.
Tu m'étonnes. Il est glauquissime. Bah, tous les personnages sont mal à l'aise, hein, quand même. Émilie, Céline, vous l'avez vu ou pas?
Non, c'est dans ma to-do list aussi.
T'as une to-do list beaucoup trop.
Il me le pousse tous les jours.
Ouais, mais bah oui, bah, on a le temps. Hein, on est là pour au moins un mois, je pense. Hein.
Ouais, super. Super.
Voilà. Hashtag dépression.
Non, hashtag confinement, ça suffit.
Et puis je viens de recevoir des nouveaux puzzles, donc autant te dire qu'on va attendre un petit peu là.
Ouais, ah ben, je comprends. Il est tard de voir les photos. Alors, vous savez quoi, j'ai complètement oublié de mettre un chronomètre. Je sais pas du tout où on en est au niveau du temps, donc on s'en fout. On va faire une émission de 2 heures et on verra bien comment ça se passe. Donc là, j'ai la technique en train de tourner de l'œil. Mais tant pis, c'est pas grave. Je sais pas. On doit avoir fait. Bon, on va dire qu'on est suffisamment dans les temps pour que j'ai le temps de dire 2 mots sur Unorthodox, qui est cette série qui change enfin des séries espagnoles pour ados dont je fais une overdose, et qui, comme pour Messia, nous permet d'entendre une autre langue, et ça fait tellement de bien. Ici, en particulier, c'est le yiddish qui est un bonheur et un ravissement pour les oreilles. C'est d'emblée salvateur, c'est une série allemande. Adaptation d'une autobiographie de Deborah Feldman. En gros, c'est une jeune femme qui est issue d'une famille ultra-orthodoxe, juive hassidique. Elle est à Williamsburg, New York. Elle choisit la liberté. Choisir la liberté, dans ce cas-là, c'est pas un vain mot, c'est vraiment un choix qui la plonge dans un inconnu assez terrifiant. C'est un système de flashback nous permet d'avoir vraiment une plongée dans la vie ultra-orthodoxe telle qu'elle existe à Williamsburg. C'est passionnant. J'ai appris des milliards de choses que j'ignorais au-delà d'être passé déjà dans Williamsburg et d'avoir vu ces communautés, mais j'étais évidemment pas dans leur quotidien. Donc c'est vraiment l'histoire d'une quête. Ça nous plonge dans des flashbacks avec des reconstitutions précises de pratiques rigides des préceptes de la Torah. Il y a une actrice exceptionnelle israélienne qui s'appelle Shira Haas qui porte sur ses toutes petites frêles épaules la série. Elle est dingue, d'un haussement de sourcils. Elle nous fait passer plein d'émotions. Il ne faut pas rater le making-of où on apprend plein de choses également sur cette communauté-là. Et ben voilà, on a l'impression, au bout d'une mini-série de 4 épisodes, de sortir beaucoup plus intelligent qu'on y était entré. Donc je la conseille vivement à tout le monde. Qui l'a vu?
Dans ma to-do list. Ouais, moi aussi. C'est ce que j'attaque ce soir, chérie.
Ouais, ça
Émilie, tu vas pas t'emmerder. Hein.
Non, ça, je le confirme.
Bon, on va te voir un peu moins dans la house party, je crois. Et un tout petit
c'est
peu
clair.
Plus sur ta to-do list. Allez, on passe au thème du jour et au débat.
Oh my God, le débat.
Alors, plutôt qu'un débat, en fait, en ces temps de confinement, on a choisi de jouer la carte doudou régressif. On a clairement besoin de réconfort et pour certains, on a beaucoup de temps libre, laquelle on ne s'est jamais lancé, ou soit de revoir intégralement une série qu'on avait adorée. Alors beaucoup de nous ne nous ont pas attendu hein, pour le faire. On le voit sur les réseaux sociaux. On a vu fleurir des messages d'amour pour des séries comme Buffy, The Wire et plein d'autres. Donc ce que je vais vous demander, les copains, c'est de nous raconter vos replays spécial confinement. Et on va commencer par Virginie.
Alors moi j'en ai deux. Si je suis tout à fait honnête dans comment j'ai découvert les séries. Il y a eu une première série qui s'appelait Dream On, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui était un premier sitcom qui montrait que le sitcom pouvait être autre chose qu'un garage à vieux, hein, entre guillemets.
C'est le générique de l'émission, je rappelle.
Ouais, tout à fait. Et ensuite, après, c'était Canal Jimmy qui diffusait Dream On. Et à la suite de Dream On, il y avait cette série qui, pour moi, alors ça a été mes deux uppercuts, un aller-retour dans mon visage et je suis restée comme ça, qui s'appelait Oz. Est-ce que vous vous souvenez de cette série ? C'est une série qui a été créée par Tom Fontana. Il y a 56 épisodes de 55 minutes. C'est diffusé de 97 à 2003. Et en gros, Oz, c'est une prison de haute sécurité niveau 4. On a une unité de lieu, d'action, pas de bienséance, hein, parce qu'il y a beaucoup de glauques à l'écran. Et on suit, en fait, les aventures des prisonniers, des gangs. Il y a les Aryens, les musulmans, les gays, ceux qui n'ont pas de protecteurs, etc. Donc, on suit toutes leurs aventures là-dedans. C'est une sorte de révélateur d'hommes, de sentiments, d'humanité. Il y a même des histoires d'amour. Il y a une très, 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 très belle histoire d'amour. Un peu sadomaso entre deux personnages qui sont Beecher et Chris Keller. Chris Keller étant joué par Christopher Meloni, qu'on retrouve après
dans New York,
Unité Spéciale. Il y a aussi J.K. Simmons, qui est un très très grand acteur, qui joue le chef des Aryens. Harold Perrineau, c'est un de mes acteurs cultes. Il fait le narrateur de la série, c'est lui qui ouvre tous les épisodes. C'est lui aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio, mais qui faisait extraordinairement bien le rôle de Mercutio. Sachez que mon fils s'appelle Mercutio et que pour moi, c'est l'acteur qui a le mieux interprété ce rôle, quoi, sur un écran dans un film de Mercutio. Il y a Dean Winters aussi qui joue O'Reilly, qu'on va retrouver pareil dans New York Unité Spéciale. Et c'est vraiment les destins d'hommes qui se croisent face au Thanatos, quoi, c'est-à-dire face à la tragédie grecque, la mort. Donc, eux agissent sur leur destin. Et puis, il y a cette espèce de plane au-dessus d'eux, cette angoisse constante de, à chaque moment, tout peut déraper, etc. Et suite à Oz, je vous conseille d'enseigner avec The Shield. Alors, Oz, pour info, ça, c'est un scandale. Comme toi, Émilie, gros coup de gueule sur toutes les plateformes confondues, personne n'a Oz. Donc, à moins d'acheter sur Amazon les DVD et de vous les faire livrer, sinon, il y a, alors que c'est quand même la série fondamentale, quoi. C'est la première série qui a montré que la série pouvait être un enjeu narratif, quoi, réel. C'est cette série-là qui a posé ce débat-là. Et ben, il y a personne qui la diffuse. C'est un truc de fou. Donc, il faut la commander en DVD. Et sinon, sur Amazon, vous pouvez revoir les épisodes de The Shield. Ça, c'est une série qui a été tournée en 2002 et 2008. Et on suit les aventures de Vic Mackey, qui s'appelle Michael Chiklins, dans la vraie vie, et qui est le chef de la Strike Team, qui étant une unité anti-gang à Los Angeles. Et alors lui, c'est un flic un peu hippie, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas des méthodes très orthodoxes. Pardon pour... Il n'utilise pas des méthodes très orthodoxes pour faire régner la loi. Ses résultats sont là, il est extraordinaire, mais comme il utilise des moyens pas très légaux, il se crée aussi plein d'emmerdes qui n'ont cessé de le poursuivre tout au long des saisons. Moi, j'ai adoré ce personnage qui est vraiment très, très ambigu. La série s'ouvre quand même sur une scène où on voit ce flic en train de commettre un meurtre, quoi, en gros. Donc, ça va à l'encontre de tous les personnages de flics qu'on connaît et pourtant, on tombe dingue de ce personnage. On a envie qu'il s'en sorte à chaque fois, alors que vraiment, des fois, il commet des boulettes. Il y a Glenn Close qui vient jouer dans la saison 4 et vraiment, les acteurs sont extraordinaires. La réal était hyper moderne pour l'époque parce que tu n'as que de la caméra à l'épaule, donc tu ne sais jamais s'ils sont observés ou en train d'être observés, etc. Et moi, ça fait partie de mes séries cultes. Et Oz, mes amis. Enchaînez. Très bon choix.
Bravo. Fabrice ?
Moi, j'en ai trois séries, mais je vais surtout en développer deux. La première, c'est pour Émilie et Eric, c'est pour dire, si vous n'aimez pas ça, n'écoutez pas les autres. Je suis en train de me refaire 12 Big Bang Theory. J'en suis à la saison 10. Écoute, moi, j'avais l'habitude de regarder cette série. Je tombais sur un épisode par hasard, de temps en temps, sur une chaîne ou sur une plateforme. Là, je me suis dit, tu vas tout prendre dès le départ. Et finalement, j'ai accroché parce que je trouve qu'ils sont quand même super attachants, c'est geek. Alors, c'est sûr, c'est moins bien que Friends, ça c'est pour toi, Émilie. C'est moins bien que Friends parce qu'il y a moins peut-être d'identification à ces personnages. Ils sont quand même assez agaçants. pour certains, notamment Sheldon, qui est le personnage le plus fort et le plus emblématique de la série. Mais ça se regarde quand même avec avec plaisir. Enfin, moi, je sais pas, en ce période de confinement, me taper du Big Bang Theory comme ça pendant 25 minutes le matin en prenant mon lait d'avoine, écoute, je me dis que finalement, je m'en sens pas si mal. La deuxième série que je regarde, alors là, c'est un peu régressif, c'est 24 heures chrono. Je l'avais déjà vu. Et en fait, comme je partage cet appartement avec une personne qui n'a jamais vu 24 heures chrono, je me suis dit, il faut absolument qu'il voit au moins la première saison de cette série qui, à l'époque, moi, m'avait donné envie de regarder des séries. Et donc, on s'est refait toute la première saison. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, ça marche toujours aussi bien. Et surtout, puisque je ne dirai rien, et surtout, ce bon vieux Jack Bauer qui doit faire face à plein de gros tourments, il y a quand même un énorme twist dans cette première saison, et j'étais content de voir que la personne avec qui j'étais, là, qui était à côté de moi, qui regardait la série, n'a rien vu venir non plus, donc je veux dire, ça fonctionne encore. Moi, j'arrêtais pas de me dire, ah bah oui, bah là on comprend, bah non, on comprend rien. Et donc, c'est super bien. Kiefer Sutherland, il vaut ce qu'il vaut. Je vous cache pas que... On va pas se mentir, au NVDS, j'en suis à la deuxième saison, peut-être que je vais me taper la troisième, je suis pas sûr que j'irai jusqu'à la huitième ou à la neuvième, hein, c'est vrai. Mais ceci dit, je prends beaucoup de plaisir à voir, même si la façon de filmer, même si les couleurs et certains appareils, le bon vieux téléphone avec sa sonnerie typique là que tout le monde reconnaît, tout ça, ça a un petit peu vieilli, mais ça reste quand même super rythmé, super efficace. Et la troisième, là, c'est grâce à Céline que j'y m'y suis mis, puisque la dernière fois, il nous a parlé du Bureau des Légendes, il nous avait parlé de la saison 2, et moi, j'avais à peine commencé la saison 1. Donc là, j'en suis à la saison 3, en plein milieu de la saison 3, je compte bien me faire la 4, et comme la 5 arrive là sur Canal, je suis en plein dedans, et franchement, pour le coup, je me disais, ça va m'emmerder, moi, des histoires d'agents secrets, tout ça, c'est pas trop mon truc, et ben c'est génial. Juste pour rappeler, c'est donc sur Canal. 24 heures chrono, vous pouvez le voir aussi sur MyCanal. Et pour Big Bang Theory, c'est un peu le coup de gueule d'Emily. Il y a 11 saisons sur Netflix, il y a 11 saisons sur Prime Video, et par contre, la 12e n'y est pas. Et je crois qu'il y a une saison perdue, je ne sais plus sur quelle autre plateforme. Donc en fait, pour Big Bang Theory, pour l'instant, c'est un peu difficile de voir les 12. Mais enfin, si vous en faites déjà 10, je pense que je vous mettrai quand même une bonne note. 10, c'est pas mal.
Ok. Super choix aussi. Célim, toi qui influences visiblement Fabrice dans cette situation, vas-y, continue. Écoute,
alors, pour prendre juste la suite de ce qu'il vient de dire sur le Bureau des Légendes, c'est dispo la saison 5 depuis le 6 avril 2020 sur Canal. Je me suis maté les deux premiers épisodes. C'est bon, le cycle Russie dans lequel on est, moi je le trouve moins réussi. Je suis moins accroché que saison 1, mais surtout saison 2, hein, qui était vraiment pour moi la plus forte. Donc à regarder quand même, parce que c'est très 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 bonne série française. Là, nous, on se refait, je dis nous évidemment, parce que je partage aussi mon appartement, on se refait de la légèreté avec Entourage. Entourage, c'est une série plaisir coupable tellement débile. On suit l'ascension d'un comédien... plutôt beau gosse, Vincent Chase et ses potes, ils débarquent tous de New York, ils arrivent à Los Angeles. Les deux premières saisons, on le voit construire sa carrière, devenir une star. Saison 3, il devient la grosse rosta qui pèse plus que Spider-Man. Ils explosent tout avec le tournage de Aquaman. Dans la saison 4, on suit à fond vraiment le tournage de Medellin. Et ils arrivent, ils ont même tourné un épisode au Festival de Cannes. Donc normalement, à la fin de la saison 4, il est censé être au top. Et saison 5, tout se casse la gueule, ça ressemble à plus rien. Si vous avez du temps, les épisodes sont rapides, ça dure 25-30 minutes maximum. Il faut la regarder parce que pour moi, c'est un peu la série, on va dire, du monde d'avant. C'est-à-dire que c'est vraiment la série hétéro-beauf par excellence dans tous les épisodes. Ils se tapent des meufs dans tous les sens. Il y a de la coke, il y a des putes, il y a des escortes.
Et sur... Mais ça, c'est le monde d'avant, ça ?
Ouais, c'est un acteur, ouais, quoi. Qui a réussi.
On va se chercher dans le monde d'après.
Je suis bizarre.
Je plaisante.
Attends, je ne sais plus pourquoi je voulais parler. Ah mais si, parce qu'on est en pleine crise et que justement la saison 5 arrivait au moment de la crise des subprimes et la grève des scénaristes en 2007. Donc il y avait déjà un petit changement où tu voyais qu'ils étaient fauchés. Ils passent par une période où ils sont fauchés, ils passent par une période où ils ont des problèmes d'hypothèque, de mortgage, de maison à payer. Et c'est assez intéressant à voir, mais surtout on regarde Entourage pour les guests. chaque épisode, il y a des guests complètement fous. Ça va de Mike Tyson à Mark Wahlberg à Jessica Alba et à, j'ai vu, attention, dans un épisode de la saison 6, Gal Gadot à 22 ans, qui n'était encore personne, hein, donc elle était en 2010, on la connaissait pas, 2008, c'est un épisode de 2008, et on la voit rouler des pelles à l'acteur principal, donc on la connaît, elle est devenue quelqu'un, voilà.
Il me semble qu'elle est devenue qui ?
Elle est devenue Wonder Woman, Gal Gadot.
Et il me semble que c'est produit par Mark Wahlberg, c'est ça ?
Exactement.
C'est disponible sur quoi, Célim ?
C'est disponible sur OCS. Sur OCS. Ah, voilà, monde d'avant, parce que Harvey Weinstein, parce qu'on voit aussi une fausse apparition de lui à l'intérieur. On voit un mec qui joue le rôle de Harvey et il est effectivement complètement dégueulasse et c'est assez intéressant à regarder. Tu te dis que même eux qui le connaissaient, ils le dépeignaient déjà comme une putain d'ordure et c'est vraiment bon esprit.
Ok, on n'aura pas le temps de faire ton deuxième coup de cœur qui était Friends.
Enfin, c'est pas grave, tout le monde connaît déjà, Émilie, elle représente.
Et on va d'ailleurs aller directement sur Émilie, qui, je crois, doit nous parler
d'abord. Bon, je vais la faire courte parce que visiblement. Séries. Ouais, non, parce qu'en fait, j'ai eu du mal à choisir. Hein. Du coup, j'ai essayé de catégoriser en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est. Et je vais, petite précision, il y en a pas mal qui sont sur OCS parce que je me rends compte que les séries intégrales, OCS en a chopé pas mal grâce notamment à son deal avec HBO. Donc on a vu qu'ils ont The Shield, on a vu qu'ils ont Entourage. Ils ont aussi, alors si vous avez envie de drama, vous avez The Sopranos. Si vous l'avez toujours pas vu, regardez-le, c'est une des séries, les meilleures séries de l'histoire. Ils ont aussi Six Feet Under, qui est une des séries chouchoutes d'Eric, ouais. Si je dis pas de bêtises, avec une des meilleures fins de séries du monde. En drama, vous avez aussi Friday Night Lights, qui est une très très bonne série qui, de prime abord, a l'air d'être une série pour ados, mais ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est dispo sur Amazon.
C'est génial.
Et toujours sur OCS, vous avez bien sûr Game of Thrones si vous n'avez pas eu l'occasion. Sachez que moi, à l'origine, j'étais pas. Voilà. Moi, à l'origine, j'avais pas du tout envie de me mettre dedans. Et en fait, dès que j'ai commencé à regarder, j'ai été mais happée par cette série. Il y a une qualité d'écriture qui est dingue. Il y a une qualité de tout qui est extraordinaire. Donc, allez-y, vous avez du temps, donc profitez-en. Si vous avez envie de vous marrer, toujours sur OCS, on a Sex and the City, bien sûr, à revoir. On a Ally McBeal qui est dispo sur Amazon. On a That 70s Show sur Netflix, que moi j'aime beaucoup, qui est un petit peu, c'est un peu comme Friends, mais dans les années 70, avec notamment Ashton Kutcher et Mila Kunis, donc ils sont
oui,
aujourd'hui en couple.
Qui sont, voilà, c'est ça qui est trop mignon, voilà, c'est qu'on les voit voilà. Bébé. Et il y a Demi Moore entre temps ouais. Qui passe. Mais exactement. C'était une erreur de chemin, quoi.
Voilà,
nous on le savait.
Voilà, nous on avait bien vu dans la série déjà, on voyait que ça cliquait de ouf. Donc That 70s Show, c'est très très sympa à regarder, c'est un peu comme Friends, mais ouais, dans les années 70. Et sur Disney+, il y a l'intégrale des Simpsons. Personnellement, je ne suis que joie. Je vais me bouffer du Simpson à plus savoir quoi en faire. Et on finit avec les soaps parce que je pense à mon petit Fabrice Dupreuil. On a Ally McBeal qui est dispo en merci. Intégralité sur Amazon. On adore Ally McBeal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une avocate un peu barrée, complètement barrée dans un cabinet. Elle, a son grand elle bosse avec son grand amour. C'est un peu la merde. C'est extraordinaire.
Mais c'est le retour de Robert Downey Jr.
Avec notamment toute une saison avec Robert Downey Jr. qui vient.
Parce qu'il a remis en route parce qu'il avait plus de carrière avant ça.
Mais en fait, il part au milieu de la saison 5 de mémoire. Il arrive en début de saison 5. Il part quelques épisodes parce qu'en fait, il se retrouve au tribunal dans la vraie vie. À cause de la drogue, et après il revient pour repartir. Donc c'est,
oui, parce qu'il c'est est arrivé avant qu'il n'ait plus de carrière, et il est revenu alors qu'il n'avait plus de carrière.
C'est exactement. Et ça, compliqué. Voilà, ouais. Et ça l'a un peu reboosté. Et enfin, bien sûr, Gossip Girl, à revoir, et Melrose Place sur TF1. Faites-vous l'intégrale de Melrose Place.
Non.
Donc là,
extraordinaire.
Il nous faut
c'est
un
génial.
Confinement de quoi, 6-7 mois pour réussir à faire tout ça.
De quoi
il nous faut vous inquiétez pas, c'est le programme.
D'accord.
Bah oui, mais au moins, comme ça, si t'es dans envie de drama, de drôle ou de soap, tu pourras en trouver chez nous.
Exactement.
Voilà. En fait, ça laisse un large choix, je suis d'accord. Donc, merci pour ce tour d'horizon. J'en rajoute juste une dans laquelle moi je me suis lancé, qui est The Good Wife. C'est disponible en intégralité sur Amazon. J'avais commencé, en fait, The Good Fight. Que j'ai bien aimé et il y a un moment je me suis dit en fait c'est bête de faire ça parce que je sens que je rate des références donc j'ai profité de ce confinement pour me faire cette série dans laquelle je n'étais jamais entré parce que j'étais arrivé trop tard, j'avais raté le début enfin, voilà, donc c'est quand même 8 saisons donc c'est beaucoup d'épisodes, c'est super bien fait, alors je pense que toute la Terre c'est déjà ça mais moi je le découvre au fur et à mesure, ça a bien vieilli. Ça, ce petit format dont je parlais tout à l'heure que moi j'apprécie, qui est que à la fois il y a une toile de fond qui évolue, mais il y a des épisodes qui se bouclent Et c'est quand même agréable, quoi, de se dire, ouais, je peux boucler l'histoire à chaque fois. Je suis pas laissé en suspens tout le temps parce que ça fatigue nos petits cerveaux qui n'ont pas besoin de ça. Il y a Julia Margulies qu'on aime d'amour, évidemment. Le reste du cast est assez fort. Je n'ai pas noté le nom de la personne d'origine indienne qui fait toutes les enquêtes. Elle est sublimement belle aussi.
Ah oui, je l'avais interviewée.
Elle est super. Elle est superbe. Elle est, oui, son personnage est génial.
Elle est odieuse dans la vraie vie.
Ah zut. Bah, je suis vraiment déçu.
Bah oui, pardon.
Parce que moi, j'étais prêt à l'épouser.
Et bah, ça aurait Panja, fait bien Panja plaisir.
Panja
quelque chose. Panja. Ouais, quelque chose comme ça. Écoute, même si elle est odieuse, moi, je suis prête à l'épouser, en fait. Parce que je la trouve superbe. Voilà, donc c'est disponible sur Prime Video. Bon, les enfants, je crois qu'on a dépassé un peu ou pas, on n'en sait rien, c'est pas très grave. Merci, c'est tout pour cette fois.
C'était super.
C'était super, comme d'hab, malgré ce petit confinement. Je pense qu'on va en refaire une.
Bon, maintenant on arrête de mentir, on va boire un coup.
Ouais. En fait, on est tous dans la même pièce.
Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. On a tous été super sérieux sur le confinement, ouais. Et je ne rigole pas là-dessus comme chacun.
On n'a même pas fui Paris. Alors, c'est vous dire si on est sérieux.
On n'a même pas fui Paris alors qu'on avait peut-être de bonnes raisons de le faire. Donc, on continue comme ça. On tient bon. Si vous avez aimé, sur les réseaux sociaux, hashtag bêta série Oh My God.
Et là, on peut me répondre. J'ai du temps. Je peux lire.
Ouais, là, vous pouvez aller directement parler à Virginie. De Closade.
Tous ceux qui se sont retenus, j'ai du temps pour vous répondre, allez-y.
C'est ça. Vous pouvez nous écouter aussi en rediffusion sur Beta Series La Radio, au podcast, sur toutes les plateformes qui vont bien. On se retrouve très vite, en mode confiné sans doute. Des bisous. Ouais. Ciao.
Oh My God. L'émission décomplexée sur les séries, présentée par Eric Maillard et sa bande sur Beta Series La Radio.